Il est 6h19, vous en avez sans doute au pied, vous en avez eu ou vous en aurez. Les baskets ont colonisé nos placards en l'espace de quelques années. Comment une simple chaussure de sport est-elle devenue un objet indispensable du quotidien et même un accessoire de mode? La réponse se trouve dans votre livre. Bonjour Pierre Demoux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos et auteur de l'Odyssée de la basket, comment les sneakers ont marché sur le monde, un livre qui vient de sortir. Et c'est peu dire que c'est une histoire extraordinaire au sens premier du terme. Il y a tout dans cette histoire. Des familles qui se déchirent, de l'argent qui coule à flot, des stars, mais aussi des échecs cuisants et même parfois des meurtres. C'est une saga. Jamais aucun objet vestimentaire n'avait suscité un tel phénomène.
Pas à ma connaissance, en tout cas, pas de manière aussi globale. Et c'est pour ça que justement je voulais me pencher dessus pour essayer de raconter comment cette histoire s'est construite en l'espace de quasiment un siècle. Donc j'ai essayé de revenir en fait sur cette histoire-là à travers 12 histoires, 12 enquêtes pour éclairer chacun une facette d'un même puzzle qui raconte comment aujourd'hui on est arrivé à porter tous une paire de baskets
au moins une fois.
Hein. Voilà.
Ouais, vous écrivez que la dernière barrière à franchir, ce serait de voir un chef d'État porter des baskets à un sommet international. Ça, c'est le dernier truc qu'on n'a pas vu encore.
Pas encore, mais ça viendra certainement bientôt. Et je pense qu'on est vraiment à quelques années de voir ça, parce qu'aujourd'hui, une chaussure sur deux vendue en France, c'est une paire de baskets.
Et ça se porte avec tout, on le voit maintenant, même avec des jupes, y compris dans le secteur du luxe, hein, y a tout un chapitre là-dessus aussi, c'est les grandes marques de luxe, finalement, s'y sont mises aussi, quoi.
Oui, elles n'ont plus le choix aujourd'hui pour contenter, enfin, les consommateurs veulent des baskets, donc c'est l'objet incontournable pour séduire les gens.
Alors, tout le monde en a, mais il y en a qui en ont un peu plus que d'autres. Hein. C'est des fans qui ont même un surnom, les sneakerheads. Comment on traduit ça? On traduit pas en français.
Non, je ne crois pas qu'il y ait de traduction valable en français. C'est effectivement les gens qui sont vraiment passionnés par l'amour des baskets.
Le plus gros collectionneur, il en a combien?
Ça se compte en milliers de paires, vraiment.
Il a des gros placards.
C'est carrément un garage dans ces cas-là.
Et alors j'ai vu dans votre livre aussi, vous le racontez, qu'il y a même des cliniques maintenant pour réparer les baskets.
C'est ça, ceux qui sont vraiment amoureux de leur paire fétiche peuvent les faire réparer ou les faire leur donner un petit coup de jeûne, un petit coup de lifting.
Vous racontez par exemple qu'il y a une clinique, je vais lire juste quelques lignes. Les chirurgiens opèrent en blouse blanche, maniant avec dextérité pinceaux, brosses, produits de blanchiment, de décapage et divers autres instruments de rénovation. On délivre même des ordonnances avec nos conseils d'entretien et de suivi. Ça va loin là quand même.
C'est vraiment l'amour des baskets.
Et... Ça c'est la clinique du docteur Sneaker à Toulouse, c'est ça?
C'est ça, oui. Et c'est vraiment, voilà, ça montre à quel point cet objet a un attachement particulier auprès des gens, souvent qui l'ont porté jeune et qui continuent de le porter ensuite dans leur vie quotidienne, puis au travail et peut-être, voilà, bientôt un jour jusqu'au chef d'État des plus grandes nations.
Et comme tout objet qui se répand, c'est devenu un business, hein, y a un tel engouement que c'est même un objet de spéculation. Vous dites qu'il y a une sorte de CAC 40 de la basket?
Oui, il existe des bourses en ligne où on voit l'offre et la demande qui fixent des prix. Pour les modèles les plus recherchés.
Ça peut monter jusqu'à combien?
On est sur des dizaines de milliers de dollars, enfin, ou d'euros, hein, mais donc ça va très très loin. Et ça montre, voilà, à quel point aujourd'hui les gens peuvent être prêts à tout pour acheter une paire de baskets.
Prêts à tout, faites bien de le dire, parce que vous racontez qu'il est déjà arrivé aux États-Unis qu'il y a des meurtres pour une basket.
Voilà, c'est ça. Enfin, sur les modèles les plus recherchés.
Parce qu'il y a des modèles des éditions limitées. Hein, les fabricants sont des petits malins quand même. Donc, ils font pas mal d'éditions limitées pour susciter l'envie, évidemment. Et parfois, ça suscite des drames.
Voilà, bah, c'est un peu le côté sombre de cette histoire. Et c'est pour ça que y a toute la facette brillante et le côté cool des baskets, mais il y a aussi le côté sombre qui sont parfois jusqu'au meurtre. Mais aussi toute la partie fabrication.
C'est ce que j'allais dire, dans le côté sombre, il y a ce qui colle à la peau de Nike depuis longtemps. Hein, c'est cette réputation du fabricant qui exploite la misère dans les pays pauvres. Quoi.
Voilà, j'ai essayé justement d'aller dans les usines en Chine pour voir si cette idée était toujours valable.
Et alors?
Elle l'est de moins en moins. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'à travers la basket, on peut raconter l'histoire de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on voit à quel point les pays en fait ont changé, ont évolué en cours de route, comment les économies ont évolué. Et la basket est vraiment une sorte de thermomètre qui montre à quel point la Chine, par exemple, est devenue maintenant un pays où il y a beaucoup d'usines vraiment de pointe. Et que les usines à bas coût sont plutôt en train de se délocaliser dans d'autres pays.
Lesquelles?
Alors plutôt en Asie du Sud-Est. On a Vietnam, Indonésie, et maintenant peut-être ça commence même à se déplacer en Afrique. L'Éthiopie, par exemple, est en train de devenir une nation émergente.
Et ce qui est intéressant aussi avec la Chine, c'est que c'est plus seulement un sous-traitant. Maintenant, le pays a désormais ses propres marques aussi de basket.
Ouais, il y a des marques de basket chinoises qui commencent à vraiment se faire une place, alors, principalement en Chine pour le moment, mais voilà, ça montre, voilà, c'est une autre facette de la mondialisation, de voir à quel point la Chine est devenue le pays de l'atelier du monde, est devenue le premier marché quasiment, enfin bientôt le premier marché des baskets.
C'est qui d'ailleurs le numéro 1 du secteur, l'entreprise qui marche le mieux?
C'est Nike aujourd'hui qui est le numéro 1, suivi par Adidas, qui sont vraiment les deux gros acteurs du secteur. Puis derrière, plein d'autres marques qu'on connaît, donc les Pumas.
Et au total, ça fait un marché de 80 milliards d'euros, c'est ce que vous écrivez. C'est un marché qui continue de grossir. Vous pensez qu'on va atteindre à un moment un plafond ?
Je le vois pas pour le moment. En tout cas, on est encore en train de grossir, puisque les gens qui portaient des baskets jeunes continuent à en porter. Donc, au fur et à mesure, la population grandit. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de modèles pour bébés, par exemple, on se dit que c'est des futurs adhérents de la secte des baskets et qui vont continuer à en porter au quotidien.
Et en même temps, vous citez quand même l'exemple, alors là ça nous emmène loin, au 14e et au 15e siècle, des poulaines qui étaient la chaussure incontournable en Europe de l'Ouest et qui s'est cassée la figure et qui a vite disparu finalement, donc peut-être que ça pourrait arriver à la basket.
Peut-être, oui. Bon, la poulaine était quand même un style très très particulier.
Vous avez 50 cm, vous écrivez, c'est ça la chaussure.
C'est ça, oui. J'invite tout le monde à aller voir sur internet à quoi peut ressembler une poulaine et à essayer de marcher, d'imaginer comment on pouvait marcher avec.
Alors sans remonter jusqu'au 15e siècle, la toute première basket, elle date de quand?
Alors les premières baskets sont des chaussures de sport, parce que au départ c'est ça, la basket c'est une chaussure de sport.
Oui, c'est ça, c'est dingue, maintenant on porte ça avec des petites robes, mais en fait à la base c'est pour courir quoi.
C'est ça, c'est vraiment pour pour pratiquer une activité sportive, et elles sont apparues donc dans la deuxième moitié du 19e siècle. D'abord donc pour les pratiques de loisirs, puis ça s'est développé, ça s'est démocratisé.
C'est aux États-Unis ou c'est
États-Unis, Angleterre, on va dire dans l'Occident. Mm-hmm. Principalement là où la société de loisirs est apparue au milieu du 19e siècle. Et ensuite, c'est au travers de toute cette histoire-là, on voit apparaître des personnages, des histoires, des villes aussi qui sont vraiment connectées à l'histoire de la basket. Dans les personnages phares, il y a notamment Chuck Taylor, qui est celui qui a donné son nom à une paire de Converse qui est très très célèbre et qui est en activité depuis 100 ans.
Et qui lui n'a quasiment jamais gagné d'argent là-dessus.
Alors il a eu pas forcément la bonne décision, c'est-à-dire qu'il a pas demandé de royalty pour apposer son nom sur la basket. Il n'est pas mort pauvre non plus, mais il aurait pu être très riche.
Les baskets, les chaussures les plus mythiques, elles ont toute une référence, un nom. On pense à Michael Jordan aussi, qui a donné son nom à une Nike archi connue, la Stan Smith évidemment. Et alors ça c'est drôle, parce que dans le livre vous mettez que la plupart des gens ignorent en fait que Stan Smith, il a vraiment existé.
Oui, c'est une vraie personne, c'est un vrai monsieur.
C'est un ancien champion de tennis.
C'est ça, oui. Et ce qui est marrant en plus dans cette histoire avec Stan Smith, c'est qu'au départ la basket, ce modèle-là, s'appelait pas Stan Smith, il s'appelait Robert Hayet, du nom d'un tennisman français. Donc la Stan Smith est née Robert Hayet en France dans les années 60, et toute l'histoire autour de ce modèle-là, qui est très très populaire aujourd'hui, en fait montre à quel point le marketing est important, à quel point toute cette histoire-là est liée aussi à la façon dont les marques nous vendent une paire de baskets.
Et dans votre livre, vous racontez aussi la guerre entre Adidas et Puma. C'est la série Dallas, mais en Bavière. C'est au sein d'une même famille. Ça aussi, c'est passionnant. Dernière question, mais en quelques secondes, rapidement. Le mot basket, c'est typiquement français?
Oui, il n'y a qu'en France qu'on utilise le mot basket, qui vient de chaussures de basketball à la base. Partout ailleurs, on est plutôt sur les sneakers, qui est en train de gagner du terrain aujourd'hui.
Sneakers, j'ai vu aussi espadrilles. Vous dites ça au Québec, c'est ça?
C'est ça, oui. Les Québécois ont inventé une expression bien à eux.
Merci beaucoup, Pierre Demoux. L'Odyssée de la basket, ou comment les sneakers son marché sur le monde. Votre livre, publié aux éditions Latingo, vient de sortir.
Merci beaucoup.